Donc voilà, avant de vous exposer ce dispositif, bon, ben, je vais réexpliquer les enjeux et l'intérêt donc, d'initier ces futurs enseignants avant qu'ils n'entrent dans le métier, et quand ils sont encore en formation. Bien entendu, on a un peu de tout. On en a qui sont déjà dans le métier, mais l'idée, c'est vraiment de les faire interagir entre eux et de manière à leur apprendre à pouvoir intégrer les savoirs donc, dans l'enseignement secondaire et donc de pouvoir les mener à oser pratiquer l'interdisciplinarité à l'école. Alors, bon, les enjeux, ben, c'est clair. Hein, si on fait référence à ce que dit Edgar Morin et à ce qu'ont dit mes prédécesseurs, finalement, c'est apprendre à penser le complexe, puisque, bien entendu, au sortir des humanités, les élèves ne font pas nécessairement d'études qui les mènent à devenir des experts. Et donc, l'idée au niveau du secondaire, c'est bien de les ouvrir au champ des possibles et de leur apprendre donc à faire des liens entre les disciplines qu'ils ont eues de façon séparée à l'école, puisque, pour le moment, en tout cas en Belgique, il n'y a pas encore de plage horaire accordé à l'interdisciplinarité. On espère que ça se fasse via le pacte pour un enseignement d'excellence, mais c'est vrai que ce n'est pas comme en France, ce n'est pas comme au Québec où là déjà il y a des plages horaires consacrées à cette interdisciplinarité. Donc l'idée est vraiment d'essayer de les amener à faire ces liens entre ce qu'ils apprennent durant leurs différentes classes. L'intérêt évidemment donc, c'est comme je l'ai dit, à former des futurs citoyens qui soient prêts à appréhender donc les problématiques complexes qui sont là actuellement, telles que le développement durable, donc en fait tous ces grandes thématiques qui sont à l'ordre du jour actuellement. C'est ce qui est fait donc notamment en France au niveau du collège. Alors, donc comme je l'ai dit, c'est fait ailleurs, et maintenant donc toute l'équipe toutes les équipes qui sont là en train de plancher sur le futur de l'école secondaire notamment, eh bien l'équipe de Madame Schinz, donc en partie donc de nombreux chercheurs de toutes nos universités, prône aussi pour qu'il y ait une approche reliant des objets d'études. Et donc pourquoi? Parce que quelque part ils veulent aussi forger un esprit plus critique, et donc ils imaginent pouvoir faire intervenir dans les cours, notamment de famille, de citoyenneté éventuellement, des personnes ensemble qui puissent réfléchir à des problématiques et donc faire des activités interdisciplinaires et aussi veiller à ce qu'il y ait des travaux d'équipe entre professeurs pour donc de nouveau veiller à cette interdisciplinarité. Alors, beaucoup de professionnels de l'éducation discutent de cette fameuse interdisciplinarité à donc mettre en place dans le système scolaire. Et c'est vrai que bon, on a des avis très très différents, mais tous disent que ce qui est important pour mettre en place de l'interdisciplinarité, c'est qu'il y ait d'abord des bases disciplinaires bien solides. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui rassemble tout le monde. Maintenant, il y en a qui sont comme Pernou, donc plus enclin à ce que tout soit développé via des thématiques en lien avec la vie quotidienne, et donc une approche plus interdisciplinaire de façon plus répandue. Par contre, quelqu'un comme Astolfi, lui, prône que finalement l'école devrait se limiter plutôt à l'approche des disciplines et non pas à des approches interdisciplinaires. Alors Yves Lenoir, qui est un précurseur donc québécois, rappelle que l'interdisciplinarité, c'est bien un moyen, mais ce n'est pas une fin en soi. Et il a, donc comme c'est déjà d'application depuis longtemps là-bas, il met en évidence trois défis de cette interdisciplinarité à l'école. Donc c'est le fait que ça risque de réduire les disciplines à de simples adjuvants. Ça risque aussi de supprimer les disciplines scolaires, puisque si on remplace systématiquement par des thématiques. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment se mettre en garde contre ça, et alors aussi que l'interdisciplinarité ne soit pas vécue comme une véritable interdisciplinarité, mais comme plutôt une multidisciplinarité, donc avec des regards croisés, mais pas nécessairement des intégrations et la nécessité d'impliquer les savoirs disciplinaires. Donc ça, ce sont vraiment les trois dérives qui sont mises en évidence par ces auteurs. Alors, on est conscient de tout ça. Et donc, c'est vrai que à l'agrégation, bien sûr, on a des cours disciplinaires, de didactique, de la biologie didactique, de la chimie, etc. Mais on a aussi un cours de didactique des sciences, dont je parlerai un petit peu en fin de mon exposé. Et alors, à côté de cela, donc, on a imaginé depuis une dizaine d'années, en fait, toute une équipe s'est mise en quête de réfléchir à comment essayer d'initier les futurs enseignants à l'interdisciplinarité. Et donc, depuis 10 ans maintenant qu'il est en place, ce dispositif a évolué au fur et à mesure en fonction évidemment de l'actualité, des différentes choses, des évaluations qu'on fait chaque fois après ce séminaire avec les étudiants, donc de manière à l'améliorer chaque fois. Alors, c'est un séminaire qui dure 2 jours, donc 2 samedis, parce que évidemment, vous imaginez bien que réunir 2 fois environ 180 étudiants, puisqu'on a plus ou moins 360 étudiants en formation à l'agrégation à l'UCL. Évidemment, on ne peut pas faire ça en pleine semaine, donc c'est nécessairement les samedis, de manière à pouvoir disposer de multiples auditoires, de grands auditoires et de petits. Pour encadrer ces futurs enseignants qui donc proviennent de 23 agrégations différentes, hein, donc on a des éducations physiques, des romanistes, des biologistes, etc., il y a évidemment toute une équipe là pour les encadrer, et on est environ 6 à 8 didacticiens ou pédagogues, et on a également avec nous des enseignants de terrain. Parce que là, on trouve ça évidemment très important d'avoir des personnes qui ont déjà pratiqué l'interdisciplinarité, de manière à ce qu'ils puissent être plus à même de pouvoir argumenter les choses, tant en matière de plus-value, en matière de difficultés, etc. Alors, comment cela est-il organisé? Donc d'abord, pourquoi? Bon, vous l'avez compris, hein, quelque part, c'est conscientiser les futurs enseignants à penser le complexe avec leurs collègues et avec leurs élèves. Donc ça, c'est vraiment un des objectifs principaux. Et alors, surtout, leur faire découvrir que travailler ensemble autour d'une même problématique, ça nécessite de connaître finalement ce qui est fait dans la discipline de chacun. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument nécessaire. Pour qu'il puisse y avoir intégration, il faut qu'il y ait connaissance des objectifs d'apprentissage de chacun de ses collègues, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, donc bien sûr, l'idée de leur faire découvrir l'interdisciplinarité, leur faire apprécier les enjeux, mais aussi les limites et les atouts de l'interdisciplinarité. Il est clair que s'il n'y a pas une plus-value à intégrer les savoirs et compétences, ça ne sert à rien de se lancer dans un projet interdisciplinaire. Et donc c'est bien une des choses à laquelle on les sensibilise d'emblée, c'est le fait de pouvoir imaginer l'évaluation du dispositif en termes d'apprentissage. Alors, voilà, leur faire découvrir, apprécier les plus-values en termes d'apprentissage, leur donner le goût, l'envie et d'oser se lancer, parce que c'est facile, hein, de faire une explication théorique, mais donc l'idée ici, c'est vraiment leur donner ce goût. Et donc, pour ce faire, on invite lors de ce dispositif des témoins pour qu'ils puissent montrer que c'est quelque chose qui est réalisable. Bien entendu, chronophage, on le sait, mais réalisable. Alors, ce séminaire de 2 jours, ben, voilà, hein, vous voyez, on est à 180, donc ça, de temps en temps, on est en grand groupe dans un auditoire, de temps en temps, un petit groupe. Bien entendu, il y a un décloisonnement disciplinaire, puisqu'on a des enseignants de tous bords et des étudiants aussi qui ont des formations initiales très différentes. Alors, l'idée, c'est évidemment de leur faire vivre une expérience interdisciplinaire. Et donc, on les fait travailler en petits groupes, de manière à ce que chacun ait une responsabilité. Et donc, sans eux, le projet ne saurait pas fonctionner. Alors, il n'y a pas de points accordés à ce dispositif. Donc, c'est vraiment une auto-évaluation formative. Et donc là, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très chouette, parce que ça fonctionne tout seul, la façon dont on l'a imaginé. Et donc, voilà, il y a des exposés, des échanges, un peu de tout. Alors, on démarre donc le samedi matin par un exposé magistral en grand auditoire, où on explique en quoi ça consiste l'interdisciplinarité dans les pratiques pédagogiques. Donc on explique comment le dispositif va se dérouler. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à pouvoir faire la distinction entre les termes de multi, pluri, inter et transdisciplinarité. Donc un petit cadrage théorique en début de parcours. Par la suite, ils se retrouvent en plus petits groupes, donc on les met dans des petites classes. On a un formateur qui supervise 5-6 groupes pluridisciplinaires. Donc on constitue des groupes avec un agrégé en romane, un agrégé en éducation physique, etc. Donc vous avez compris, ils sont là en sous-groupe. Et l'idée, c'est que chacun énonce les représentations qu'ils ont de la discipline enseignée. Donc, par exemple, je suis un agrégé en éducation physique. Chacun de mes collègues va me dire, mais pour moi, le cours d'éducation physique, c'est ça travaille telle compétence. Pour moi, un bon enseignant en éducation physique, c'est ceci. Alors, vous imaginez les clichés qui sortent à ce moment-là, qui sont évidemment très, très importants. Et donc, les étudiants notent ce que les autres disent. Et donc, ils font un recueil, tout simplement. Ils prennent note, ils ne disent rien à ce moment-là. Donc, chaque participant recueille les représentations des autres. Et là, c'est vraiment une découverte. Parce que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, universitaires et donc en agrégation, qui ont eu un parcours de sciences générales, d'humanité, de technique de transition, mais pas nécessairement un parcours de professionnel ou technique. Il y en a très peu. Et donc, il y a des tas de matières qu'ils découvrent à ce moment-là, comme la psychologie, les sciences humaines et autres. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, par la suite, on refait des groupes monodisciplinaires. Donc, tous les romanistes se remettent ensemble, tous les physiciens ensemble, etc. Donc, toujours dans cette même place. Et à ce moment-là, ils prennent en considération tout ce qui a été dit dans chacun des groupes. Et on leur demande de réaliser un transparent comparatif. Donc voilà ce que les autres pensent de ma discipline. Et alors ils préparent une riposte. Voilà en réalité ce que ma discipline représente, ce qui est travaillé en termes de compétences et de connaissances. Et donc à ce moment-là, après avoir réalisé ces transparents, donc on leur demande de les présenter en une quinzaine de minutes. Voilà un exemple de transparent. Donc pour vous, le cours de français, c'est un cours désorganisé, flou, beaucoup de lectures de classiques, des questions pointues. Donc en fait, on voit que le français, c'est un cours qui, pour beaucoup, reste flou. Et donc, ils ont alors la chance de pouvoir donner une riposte et d'expliquer ce qu'il en est réellement. Et là, c'est vraiment une découverte pour la majorité. Cette activité est très appréciée. Je vous donne cet exemple-ci. Maintenant, un autre exemple en psycho, un cours de psycho. Oui, c'est pas une thérapie. Non, c'est pas une thérapie. C'est pas une rééducation des troubles. Donc, effectivement, il y a des compétences à travailler. Il y a des concepts à travailler. Donc, voilà le genre de transparent que l'on a. Et voilà, vous imaginez toutes ces présentations. Et c'est vrai que ça prend le temps de la matinée. Et je pense que c'est indispensable. Pour pouvoir alors après travailler ensemble. À partir du moment où on sait ce que l'autre travaille dans le cours, c'est évidemment très intéressant. Surtout qu'à ce moment-là, ils peuvent se rendre compte qu'il y a des choses qui sont transversales, des compétences transversales qui sont travaillées dans chacun des cours, et se dire, ah oui, mais tiens, ça, si on travaille ça à tel moment, etc., on pourrait peut-être faire un projet commun. Donc voilà, ça c'est une étape clé de notre séminaire, et dans les évaluations qu'on donne, c'est vraiment l'activité qu'ils préfèrent. Et c'est pour ça que faire ça en amont, avant qu'ils ne se lancent dans le métier, c'est évidemment très intéressant, parce qu'ils n'auront peut-être plus jamais l'occasion de faire ça. Et on demande aux étudiants de venir évidemment avec leur programme, et comme ça, c'est vrai que c'est l'occasion de, qu'est-ce qu'on fait dans le cours de physique, qu'est-ce qu'on fait dans le cours de psycho, etc. Donc c'est vraiment très enrichissant. Et ça leur donne envie, alors, d'oser se lancer. Alors, après cette étape, de manière à ce que, avant de les lancer dans la construction d'un projet interdisciplinaire, on leur présente quelques extraits vidéo de projets, donc de nouveau en grand auditoire, et on leur demande d'essayer de pointer au travers de ces courts extraits de vidéo si c'est quelque chose qui est plutôt de type interdisciplinaire, multi, pluri, etc. Et ça leur fait prendre conscience aussi que les projets ne peuvent jamais être complètement interdisciplinaires. Que bien sûr, de temps en temps, ce sera une approche, un regard supplémentaire, mais ce ne sera pas nécessairement un regard indispensable pour faire avancer le projet. Alors, faut, je crois pas qu'on ait le temps. Mais voilà, en fait, ce que l'on fait, c'est leur présenter des tout petits extraits de projets qui sont réalisés donc, dans des écoles. Je vais peut-être faire passer le premier. Ah non, c'est raté. Je vais faire comme ça, là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a le son.
Est-ce que vous êtes parvenu à faire participer des autres professeurs, des autres classes, que ce soit de primaire ou de secondaire?
Oui, tout à fait. Donc, ici, dans la réserve, nous avons créé un sentier écologique avec des petits panneaux explicatifs. Ben, par exemple, ce sont les élèves de menuiserie qui réalisent les panneaux. Ensuite, ben, les élèves de scientifiques réalisent les panneaux avec les explications au cours d'informatique, qui sont corrigés aussi par le professeur de français.
Voilà, bon, ici, on passe des extraits plus longs, bien entendu. L'idée, c'est de leur faire prendre conscience donc, de la façon dont on peut intégrer les différentes composantes, donc les différentes disciplines dans un projet. Voilà, il y a d'autres extraits. Ici, le deuxième, c'était un projet, et là, c'était intéressant, qui est né d'une problématique. Donc, c'est un enseignant qui, un matin, dans sa classe, s'est rendu compte que bon, ses élèves avaient tous endormis. Quelque part, il a demandé, mais qui prend un petit déjeuner le matin? Bon, mais finalement, il y en avait très peu. De là est venue alors l'idée de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de les sensibiliser à ce que prendre un petit déjeuner le matin est quelque chose qui peut être essentiel si on veut avoir un peu d'énergie pendant la journée. Donc voilà, voilà comment peuvent naître les projets. Et donc, au travers de ces extraits, c'est vrai qu'ils prennent mieux conscience donc, des différences entre tout ça. Alors, après ça, on les remet en groupe pluridisciplinaire, hein, bien sûr, donc durant une heure et demie, et on leur demande de se mettre en projet. Par rapport à une thématique. Et donc là, on leur donne un canevas à répondre. Donc voilà, ici par exemple, ce groupe a décidé de réaliser un documentaire en une discipline sportive sous-titrée en anglais. Donc voilà l'idée d'un projet qui intègre finalement, donc ici vous voyez, à la fois l'éducation physique, les romans, la psycho, des maths, du théâtre et des romanistes. Donc voilà le genre de groupes que l'on a devant nous. Et donc, ils recherchent des thématiques. Si maintenant, ils ne trouvent pas l'idée eux-mêmes, on a toute une panoplie de sujets qu'on leur distribue, de manière à ce que, voilà, bon, ils ne restent pas sans idée. Et là, ils ont un canevas, et donc, les premières pistes, de, voilà, eux vont s'adresser à des élèves de réto du général. Ce sera fait par des groupes de 4 élèves, un documentaire sur un sport, etc. Donc vous voyez, ils se mettent en projet durant une heure et demie et là ils savent déjà à ce moment-là quelles seront les disciplines qui seront vraiment nécessaires pour intégration et donc qui seront vraiment plus interdisciplinaires et certaines qui, comme c'est imposé évidemment, vous voyez bien que là, on ne choisit pas ses collègues. Donc ça, c'est un peu virtuel. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'ils puissent produire après un PowerPoint expliquant le projet interdisciplinaire qu'ils désirent défendre auprès d'une pseudo-direction. Donc en fait, on leur dit vraiment, vous allez devoir produire donc, ce projet, le présenter et vous aurez face à vous une direction qui doit décider si votre projet est arrivé à maturité ou pas et si vous pouvez qu'il soit accepté. Alors, ils ont évidemment des consignes à respecter et ici, on leur dit toujours que les critères d'évaluation doivent être vraiment en regard avec les objectifs qu'ils visent et donc c'est vraiment une étape très importante à partir du moment où ils mènent ce projet. Et alors, vous voyez, ils sont obligés de réfléchir à ces différents points, au temps consacré, aux disciplines qui sont mobilisées. Et donc là, on insiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait des compétences et savoir travailler dans chacune des disciplines. Mais bien entendu, lors de la présentation, on n'aura pas le temps de présenter. Mais au moins, comme ça, ils savent que les disciplines doivent apporter aussi des compétences et des connaissances. Sinon, évidemment, c'est impossible de faire ça alors qu'il y a un programme à respecter. Donc, on les met vraiment dans cette posture et généralement, ils s'y prennent vraiment bien au jeu. Donc là, c'est évidemment, comme toujours, il y a des groupes qui fonctionnent moins bien, hein, donc ça c'est sûr. Mais comme ils savent qu'ils vont être finalement évalués par des pairs, puisque le pseudo-jury, ben, ce sont les autres étudiants, c'est une belle émulation. Et donc, je dois dire que trois quarts des projets sont vraiment très très chouettes, très aboutis. Ils pensent vraiment à essayer d'intégrer tout le tout. Bon, ben, bien souvent, quand il y a des économistes dans le groupe, il y a même le budget alloué qui va être réfléchi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Oui, voilà. Donc, j'avais oublié une petite image. Il ne faut pas quitter les objectifs, bien entendu. Et alors, 15 jours plus tard, donc comme ça, ils ont l'occasion de se retrouver, ils viennent présenter les projets. Et chaque groupe dispose d'une vingtaine de minutes de présentation et 15 minutes de questions, donc par le jury, et je vous assure qu'ils ne sont pas tendres entre eux. Alors ici, je vous montre une fiche avec les critères. Bon, justement ici, c'est une fiche où ils ont beaucoup de 4 et 5, mais vous voyez qu'ici, l'idée, c'est de voir si le projet a retenu toute l'attention du jury, il est soutenu, il sera soutenu si de légères modifications sont apportées, notre projet n'est pas mûr, présent des faiblesses, donc voilà, il n'est pas soutenu dans l'immédiat, ou le projet n'est pas pertinent, il n'est pas soutenu. Ça, ça n'arrive jamais. Mais par contre, on a des A, des B, des C. Et donc là, après, ça permet de faire une petite discussion par rapport au manquement. Tiens, qu'est-ce que vous avez oublié de faire pour que ce projet puisse aboutir dans le scope. Voilà. Ici, des commentaires. Voilà, pour le besoin d'un plan voyage, peu importe. On n'a pas de... Alors, après cela, donc après cette présentation, on a alors des enseignants de terrain qui viennent présenter deux projets qui ont été vécus sur le terrain. Et c'est à ce moment-là que la discussion débouche généralement sur « oui, mais vous avez dû bousculer toute l'école, est-ce que la direction est d'accord ?» Et donc ça, c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui ressort, c'est vrai que si la direction n'est pas là pour acquiescer, c'est évidemment foutu. Donc là, se pose des problèmes, évidemment, de savoir si, ah oui, dans l'école où j'ai fait, bon, voilà, ça va dépendre, effectivement, de la direction. Le temps, c'est chronophage, il n'y a rien à faire. Donc, c'est vrai qu'on leur conseille de ne pas se lancer dans la domicilianité trop vite, hein, d'attendre d'avoir quelques années d'expérience, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très chronophage. Mais ils expliquent, évidemment, tout ce qui est appréciable après avoir vécu un tel projet, que ce soit déjà au niveau humain, donc c'est vrai que là, ils découvrent leurs élèves sous un autre regard, hein, bien entendu. Généralement, les élèves qui ne sont pas les meilleurs bien, dans ce type de projet se révèlent être très créatifs, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très positif. Leur regard sur leurs collègues aussi change. Et ils disent aussi toute la difficulté, justement, de travailler entre collègues, parce que c'est vrai que parfois ça met à mal les connaissances de l'un et de l'autre, on est obligé d'un peu de se dénuder par rapport à ses collègues, par rapport à ses connaissances. Donc c'est vrai que tout ça est discuté, mais après ces deux jours de séminaire, c'est vrai que généralement, ben voilà, on évalue et le fait de mieux connaître le futur collègue trouve que c'est quelque chose de très instructif et c'est vrai qu'ils comprennent que sans cela, il est impossible de se lancer dans un travail ensemble. Voilà, c'est de nouveau enrichissant de se retrouver avec des personnes qui n'ont pas du tout la même formation. Les doutes qu'ils ont, évidemment, c'est comment je vais oser bouger l'école, comment est-ce que tout le monde va accueillir cette idée. Donc voilà, ça c'est la question qui ressort. Et c'est pour ça qu'on a décidé maintenant de mettre sur pied une formation continue, de manière à ce que justement ceux qu'on a lancés il y a quelques années, eh bien, trouvent de nouveau en nous des personnes relais. Et donc c'est quelque chose qui va être lancé à partir de l'année prochaine. Voilà, je dois déjà terminer. Ok, alors je ne parle pas de ça. Mais je voulais juste quand même dire, juste, que outre ce séminaire, ce que l'on fait aussi, c'est de donner un cours de didactique des sciences, et donc non pas biologie, chimie, physique séparée, enfin on le fait aussi, et que c'est dispensé donc par 3 didacticiens ensemble, et c'est vrai que là, ça amène une autre dimension, parce qu'on ne fait pas que de l'interdisciplinaire. Bien sûr, de temps en temps, il y a une problématique qui nécessitent le regard croisé de l'un de l'autre. Mais l'idée, c'est leur faire découvrir que face à une problématique, il y a une nécessité de postures épistémologiques. On pourra avoir trois biologistes ensemble qui auraient des postures épistémologiques différentes aussi, mais le fait d'avoir un physicien, un chimiste et un biologiste, ils peuvent découvrir qu'en fait, la façon dont un problème est abordé, la façon dont un problème est résolu, est très dépendant de la posture épistémologique et sont quand même différentes d'un scientifique à l'autre. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est vrai que ces différences qu'ils peuvent percevoir, ça apporte une plus-value en termes d'apprentissage pour les étudiants, parce qu'ils se rendent compte finalement du champ des possibles. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui nous semblerait intéressant de pouvoir, dans le secondaire, avoir ne fût-ce qu'une petite plage horaire de 2 heures où différents professeurs aborderaient une problématique de manière à ce que justement les élèves puissent l'apprécier. Voilà, mais c'est pas ça. Et donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention.